Il a été député de Drummond, ministre également péquiste, chroniqueur politique sur les stations Cogeco. Il nous fait plaisir de l'accueillir ce matin et pour les prochaines semaines également sur nos ondes. Et François Blanchette, bonjour.
Bien le bonjour à toi et à tout l'esprit.
Bien sûr. On aura le plaisir de travailler sur un paquet de dossiers, de jaser ensemble d'un paquet de dossiers. Ce matin, ce qui touche pas mal les gens, entre autres, c'est le dossier des fameuses sorties scolaires gratuites qui ont été annulées après la directive ou non du ministre Proulx sur la gratuité. Il y a des parents qui avaient payé pendant des années du matériel scolaire qui devait être gratuit. L'époque est finie. Il y a eu une action collective, sauf que là, on se retrouve dans une espèce de cafouillage.
Bien, en fait, ça a été juste mal foutu. On va dire mal foutu, c'est le terme poli, parce que l'intention à la base, si j'ai bien compris, parce que les explications qu'on nous a données, on s'entendra qu'on nage pas dans la limpidité.
Non.
Le ministre a émis une directive, il y a plusieurs semaines de ça, disant que désormais, les commissions scolaires ne pouvaient plus facturer pour les activités. Ces fameuses activités de fin d'année, où les jeunes sont fous comme des balais, t'es mis dans un autobus puis t'es amène voir un certain nombre de choses. Des fois, c'est plus sportif, des fois, c'est très loisir, des fois, c'est culturel.
Mm-hmm.
Le ministre dit, vous pouvez plus charger pour ça. Pourquoi? Parce que ça crée une iniquité. Je te mets ça au pire, là, les activités parascolaires, là, dans les écoles bien nantis, puis où les parents sont prêts à sortir 3 000 $ à McMasterville,
oui.
Puis ils amènent mes enfants 2 semaines au Guatemala.
Mm-hmm.
Mais à grand-mère, ça se peut que les parents payent 5 $ puis ils vont aller à la Cité d'énergie. Tu sais, c'est une disparité importante.
Le spectre est large.
Oui. Là, mon exemple était volontairement exagéré parce que le Guatemala, c'est complètement un autre genre d'activité, mais on comprend qu'il y a des affaires qui coûtent plus cher que d'autres, puis le déplacement coûte plus cher que pour d'autres.
Mm-hmm.
Et donc, les parents, il y en a qui peuvent pas nécessairement se le payer et d'autres qui veulent pas, on va se le dire aussi. Il y en a qui vont être plus ou moins enthousiastes. Le ministre dit, vous pouvez pas charger pour ça. Les commissions scolaires ont des situations financières très variables et on n'est pas à veille de sortir de là parce que les positions des partis politiques sur le financement des commissions ou l'abolition des commissions scolaires sont très variables. Alors, il y en a qui ont plus de moyens que d'autres pour dire « OK, je ramasse le bill ». Maintenant, il y en a qui ne peuvent pas. Donc, tu n'as pas réglé ta disparité parce qu'il y a des commissions scolaires au complet où les enfants n'auront pas d'activité scolaire.
Exact. Certaines le peuvent, mais d'autres pas. Ben oui.
C'est ça. Le ministre dit, non, c'est pas ça, je voulais dire. Je voulais dire que vous ne pouvez pas facturer pour les activités scolaires qui ont une vocation pédagogique. Autrement dit, si tu amènes tes enfants, moi je me rappelle, j'étais allé quand j'étais jeune voir le Manic, l'ancêtre de l'Impact de Montréal au Stade olympique, je capotais.
Ouais.
Bon, ça n'a pas une grande vertu pédagogique, fait que ça, tu pourrais charger. Mais si tu les amènes voir une pièce de théâtre, en serbo-croate au centre culturel, là, tu n'as pas besoin de charger, c'est très, très, très éducatif.
Mais en même temps, c'est un peu ça le problème. En même temps, c'est un peu ça le problème. Qu'est-ce qui est éducatif et qu'est-ce qui ne l'est pas? Des fois, la ligne peut être mince un peu, tu sais.
C'était un peu n'importe quoi. Puis si c'est si simple que ça, ton affaire, tu aurais dû commencer par l'expliquer comme ça. Alors là, il a dit, évidemment, la réponse magique par excellence, le gouvernement a fait des surplus. J'ai l'impression qu'il a dépensé 4 fois ses surplus. Les surplus étaient faits parce que l'économie québécoise roule à fond de train. Mais on sait que ça ne restera pas de même. Et là, il engage les surplus futurs qui n'existeront peut-être pas. Puis à chaque fois que le gouvernement a un problème, il n'y a pas de problème.
On a de l'argent.
Il va vous couper un chèque. Il n'y a pas de trouble. Ça va bien aller. Et ça se dit très bien à l'approche des élections. Ça se dit pas très bien le lendemain des élections. Alors moi, je dis, écoutez, c'est mal barré votre affaire. Ramène 3-4 personnes dans une pièce, ferme la porte, entendez-vous, puis quand vous ouvrirez la porte, c'est parce que vous aurez réglé le problème. Qu'est-ce que ça coûte? Qui va payer? Quand? Parce que ce serait tellement triste d'enlever aux enfants ce symbole de la fin d'année quand ils partent en culotte courte avec le petit pack-sac puis ils s'en vont faire une activité. Ils sont tellement contents.
Bon,
puis, les milieux culturels, bon, ils ont été un hypocrite, le mot est fort, mais les milieux culturels disent, vous ne pouvez pas priver les enfants de culture. En fait, c'est quand il y a 22 autobus avec 30 enfants par autobus qui achètent des billets de spectacle pour enfants dans un, c'est ça, c'est de l'argent pour eux autres, puis c'est une partie de leur revenu à laquelle ils ne peuvent pas renoncer.
C'est très, très payant. Dans un autre dossier, évidemment, on surveillait la partielle de cette semaine dans Chicoutimi-le-Fjord. Le Parti conservateur qui a sacré une volée littéralement aux autres partis. Est-ce que le NPD et le Bloc peuvent se relever à moins de 10 % du vote qui a été prononcé? On s'entend, c'est une partielle et c'est un cas unique, mais il y a quand même une gifle qui a été donnée.
Le chiffres se ressemblent, mais la situation des deux parties n'est pas la même. On pourrait en effet dire que l'ancien coach des Saguenayens de Chicoutimi a jeté les gants, oui. Puis qu'il y en a sacré une solide. C'est beaucoup Andrew Scheer, pas Andrew Scheer, Andrew Scheer est très gagnant là-dedans, mais on voit que c'est toute la stratégie déployée par Alain Raïef qui a très, très bien fonctionné, grand bien leur face. Et ça laisse, si on compare les chiffres, là, je les ai sortis, j'ai fait des petites recherches, là. Les conservateurs, eux autres, ont 52 % du vote. Ils n'étaient même pas dans la course la dernière fois. C'est un gros gain. Les libéraux étaient à 32 % la dernière fois, donc en 2015, et là, ils sont à 29,5 %. Le taux de participation est beaucoup plus bas, mais quand même. Donc, c'est un léger recul. La lune de miel de M. Trudeau est finie. Il est revenu au niveau où il était auparavant. Pour le NPD, c'est un autre paire de manches. Ils étaient à 38 % en 2011. Ils avaient gagné le siège. Ils sont descendus à 30 % en 2015. Et là, ils sont à 8,7 % fait à ratiboiser. Alexandre Boulris, qui est pas mal le leader du NPD au Québec, a utilisé le mot électrochoc. Il a dit, il y a bien des affaires qui ne marchent pas. Et ils disent tout le temps au NPD, le chef n'est pas connu.
Oui, c'est vrai.
Un instant, c'est pas que le chef n'est pas connu, c'est qu'il n'est pas reconnu comme leader. Aux yeux des gens au Québec, ils le voient, puis ils le trouvent sympathique. Mais il n'y a personne qui voit un leader charismatique dans Jack Meeting.
En bon québécois, il ne passe pas. Ça ne passe pas, c'est plate à dire, mais peut-être c'est pour ça, des mauvaises raisons, pas, là, mais ça ne passe pas.
C'est exactement ça. C'est peut-être pour des mauvaises raisons. Ça, chacun a droit à son opinion. Mais c'est pas le chef n'est pas connu. C'est le chef est connu, mais les gens ne l'ont pas adopté, et ça pose un sacré problème pour le NPD. Le Bloc est dans une situation un peu différente. Le Bloc sort d'une crise majeure. Il était malade, d'une maladie qui s'est infligée lui-même, mais le Bloc était malade. Et lundi, ce qu'on a vu, c'est un peu la conséquence de ça, parce que oui, ils ont disposé de leur charismatique leader, mais pas assez vite pour être capable de monter une organisation. Et la candidate qui a perdu, plutôt que de faire un acte d'humilité et de dire « Écoutez, on va faire mieux la prochaine fois », elle est retombée dans cette ornière de dire que c'est de la faute de l'autre gang à l'intérieur du Bloc, ce qui est la pire affaire à faire. Et là, on craignait que les deux factions de 5 députés du Bloc, là, parce que là, c'est rendu 5 d'un bord, 5 de l'autre, se garochent des bêtises en disant que c'est la faute de l'autre gang. Et la bonne nouvelle pour ces gens-là, c'est, en fait, il y a plusieurs bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas fait ça. Ils se sont parlé. Les téléphones ont sonné et les deux gangs ont commencé à avoir des discussions. Personne ne va dire que les 5 debout reviennent au Bloc demain matin. Ça va être non tant que ça ne sera pas peut-être, puis ça va être non tant que ça ne sera pas oui. Ça, c'est normal. Mais on sait qu'il se passe une bonne chose. Et l'autre élément, c'est qu'il y a quand même entre 30 et 35, 36 % des Québécois qui se disent souverainistes. Ils ne se lèvent pas la nuit pour aller agiter leur drapeau devant un bureau de poste, parce qu'il y a un drapeau canadien au bureau de poste, là. Mais ils se disent encore souverainistes. Il y a encore un fonds de commerce pour le Bloc québécois. Ce qui est un avantage que le Bloc a par rapport au NPD, dont on est plus capable d'identifier ce sur quoi il peut s'arrimer pour continuer à se reconstruire. Fait que le Bloc a peut-être un avantage.
Là.
Il va falloir qu'il l'utilise vite, parce que pour les conservateurs, c'est le beau risque de Brian Mulroney et René Lévesque, version 2018.
Et ça a été assez convaincant. Et François Blanchette, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous.
Ce sera toujours un plaisir.
Au plaisir de se reparler demain. Merci.
Bye-bye.